VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 27 février 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa remanie le gouvernement hérité de Jacob Zuma.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari reconnaît que les 110 filles de Dapchi ont été enlevées une semaine après l'attaque de leur école par Boko Haram.
En Guinée, un mort et des blessés à la fin de la journée ville morte hier à Conakry.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier l'instauration d'une trêve humanitaire quotidienne à partir d'aujourd'hui dans la Ghouta orientale.
Le président américain Donald Trump prêt à tenir des pourparlers avec la Corée du Nord si les conditions sont réunies.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
C'était un moment attendu sur la scène politique sud-africaine. Le nouveau président Cyril Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma, a annoncé hier la composition de son gouvernement. Un remaniement où l'on note des changements ou retours importants pour rassurer les investisseurs, mais aussi une volonté de maintenir l'unité du parti, l'ANC. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon.
Cyril Ramaphosa a procédé à des changements majeurs dans son cabinet ministériel, signalant une prise de distance par rapport aux récentes exclusions et nominations faites par l'ancien président Jacob Zuma. On retiendra avant tout le retour de Nhlanhla Nene aux finances. En décembre 2015, le président Zuma s'était brutalement séparé du ministre et l'avait remplacé par un député inexpérimenté, un changement qui avait fait chuter le rang de la devise sud-africaine. Autre retour important, celui de Pravin Gordhan, un ardent défenseur de la lutte anticorruption, lui aussi limogé par Jacob Zuma. Il se voit confier le portefeuille des entreprises publiques, un ministère sensible suite à la mauvaise gestion de ces entreprises. Cependant, le nouveau cabinet compte encore beaucoup d'anciens alliés de Jacob Zuma, y compris le nouveau vice-président David Mabuza, numéro 2 de l'ANC depuis la conférence du parti en décembre. Cyril Ramaphosa a expliqué vouloir créer un équilibre entre la continuité, la stabilité et la nécessité de renouveau et de reprise économique. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Au Nigeria, une semaine après la disparition de 110 élèves dans le nord-est du pays, le président Muhammadu Buhari a reconnu hier qu'elles ont été enlevées. Le point avec Dili Diko.
Le gouvernement reste aux côtés de celles qui ont été enlevées, a déclaré M. Buhari lors de sa visite à d'anciens otages de Boko Haram, libérés au début du mois. Les étudiantes de Dapchi ont été enlevées à la suite d'une attaque attribuée au groupe Boko Haram. Le chef d'État nigérian a ajouté avoir ordonné à l'ensemble des forces de l'ordre de garantir la sécurité dans les écoles et de ramener les filles kidnappées à leurs familles. À la fin de son adresse, le président Buhari s'est excusé auprès des parents des élèves de Dapchi en qualifiant leur enlèvement de catastrophe nationale. C'est la première fois que le terme kidnapping est employé de manière officielle, car jusqu'à là, les autorités ne parlaient que de disparition. 110 filles sont toujours portées disparues, ce qui ramène le mauvais souvenir de 276 lycéennes enlevées de Chibok en avril 2014. Il y aura bientôt 4 ans.
En Mauritanie, la cour criminelle de Nouakchott a condamné hier 11 personnes à des peines de prison de 5 à 10 ans ferme pour avoir créé une cellule de l'organisation État islamique en Mauritanie. Parmi ces personnes, le chef de cette cellule, Ahmed Kori Ouldjidou. Les prévenus ont été reconnus coupables d'avoir tenté de mettre en place des actions pour donner l'impression d'une forte présence du groupe djihadiste en Mauritanie lors de la tenue en juillet 2016 d'un sommet de la Ligue arabe à Nouakchott, selon une source policière.
En Guinée, un jeune homme a été tué et d'autres personnes blessées à la fin d'une journée ville morte organisée hier à Conakry par l'opposition guinéenne, qui a accusé la gendarmerie d'être responsable de ces violences. 3 semaines après des élections locales dont les résultats sont contestés et après 2 semaines de grève des enseignants, le climat social s'est encore alourdi hier avec un appel à la grève générale lancé par le puissant syndicat UGTG.
L'ONU a exprimé hier son pessimisme face à l'avenir du Burundi, en crise depuis 2015, mettant en garde contre une aggravation de la situation avec un référendum prévu en mai qui permettrait au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce pays reste un sujet de préoccupation qui interpelle la communauté internationale, a résumé lors d'une réunion du Conseil de sécurité l'émissaire spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Cafando. L'ancien président burkinabé a aussi rejeté les critiques burundaises sur l'implication de l'ONU pour aider à résoudre la crise, assurant qu'elle ne comportait ni ingérence ni partialité.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé hier que 11 réfugiés congolais avaient été tués par la police rwandaise lors de la dispersion d'une manifestation contre les rationnements de nourriture jeudi. Un précédent bilan donné le lendemain du drame par les autorités rwandaises faisait état de 5 morts. L'HCR a parlé de 8 réfugiés tués dans la localité de Karongi et de 3 autres dans le camp de Kiziba dans l'ouest. Quelques 17 000 personnes venues de l'est de la République démocratique du Congo vivent dans ce camp, certaines depuis plus de 20 ans.
Soudan du Sud, l'ONU a relevé de leurs fonctions 46 casques bleus ghanéens accusés d'abus sexuels sur des femmes. Une enquête préliminaire a été ouverte, Blanche Sanou.
Les 46 policiers qui servaient dans le nord-ouest au sud du Soudan ont été mis en isolement avant d'être rapatriés à Juba. Une enquête a montré que ces casques bleus étaient engagés dans des activités sexuelles avec des femmes vivant sur des sites de protection des civils gérés par l'ONU. Au cours d'une conférence de presse, Stéphane Dujarric, le porte-parole des Nations Unies, a indiqué que certains policiers du contingent sont accusés d'avoir monnayé des rapports sexuels. Il a ajouté que la tolérance zéro s'appliquait au sein de la mission des Nations Unies à ce sujet. Le Ghana coopère avec l'ONU depuis le début des plaintes reçues le 8 février, a aussi indiqué le porte-parole onusien. En vertu des règles de l'ONU, il revient au pays d'origine d'un casque bleu soupçonné de mauvais comportement de le juger après une enquête menée conjointement avec les Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné hier l'instauration d'une trêve humanitaire quotidienne dans les frappes aériennes de Moscou contre les positions des rebelles syriens dans la Ghouta orientale, et ce à partir du 27 février de 9h à 14h. Selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, cité par les agences russes, l'objectif est d'éviter les victimes civiles. Un couloir humanitaire est en train d'être créé pour permettre aux civils de quitter la ville, avait encore dit hier Sergueï Choïgou. L'ordre de M. Poutine est intervenu 2 jours après l'adoption d'une résolution unanime du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu de 30 jours.
Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à tenir des pourparlers avec la Corée du Nord, mais seulement si les conditions sont réunies. Il a aussi averti que si Pyongyang ne renonce pas à ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, il pourrait y avoir de potentielles et énormes pertes de vie, des chiffres jamais envisagés et que personne n'aurait imaginé, a laissé entendre M. Trump. Il parlait lors d'une rencontre à Washington avec les gouverneurs des États américains. Selon la présidence sud-coréenne, la Corée du Nord est disposée à discuter avec les États-Unis. M. Trump a dit à ce sujet, ils veulent parler, c'est la première fois, on verra bien ce qui va se passer. Il a ajouté qu'il faut faire quelque chose pour éliminer la menace que constituent pour les États-Unis et leurs alliés les armes de destruction massive nord-coréennes. Peu après, sa porte-parole Sarah Sanders a répété que la dénucléarisation doit être le résultat de tout dialogue avec la Corée du Nord.
Toujours à Washington, le président Trump a dit aux gouverneurs américains qu'il signera un ordre interdisant les bump stocks, ce dispositif qui transforme des fusils semi-automatiques en armes automatiques, peu importe ce que le Congrès compte faire ou ne pas faire, à qui l'assurer. Le tireur qui a tué en octobre plus de 50 personnes lors d'un concert à Las Vegas avait utilisé ces bump stocks.
Toujours aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté hier une demande de l'administration Trump de trancher immédiatement sur DACA. Ce programme mis en place par l'ancien président Barack Obama protège d'une expulsion quelques 700 000 jeunes, les Dreamers, arrivés illégalement dans le pays en compagnie de leurs parents. Claire Morin-Gibourg.
À moins que le Congrès ne trouve rapidement un compromis, les Dreamers sont toujours dans l'incertitude. Le programme DACA, qui leur permet de travailler et d'étudier légalement, a été abrogé par le président Donald Trump, qui avait fixé le 5 mars comme date butoir. un juge fédéral a suspendu cette décision. La Cour suprême a, elle, refusé de se saisir de ce dossier politiquement explosif, estimant qu'il appartenait à une cour d'appel de se prononcer d'abord. Réagissant à cette décision, la Maison-Blanche a réaffirmé que ce programme était illégal, souhaitant une décision rapide. Les démocrates ont salué la décision de la Cour suprême. Le programme DACA est au cœur d'un bras de fer entre le président républicain et les élus démocrates du Congrès. Le président Trump a proposé une solution pour les Dreamers en échange du financement du mur qu'il souhaite construire à la frontière avec le Mexique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La communauté d'Afrique de l'Est souhaite mobiliser 78 milliards de dollars pour développer ses projets d'infrastructure afin de booster l'activité économique de la région. C'est dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2025. L'organisation envisage à construire les chemins de fer, les routes, la mise en œuvre de plusieurs projets dans le secteur énergétique, ainsi que la construction d'un centre régional d'excellence pour l'enseignement médical supérieur et la recherche. La monnaie sud-africaine a atteint son plus haut niveau depuis février 2015. Le rand était hier à 11,5300 par dollar sur le marché d'échange. La hausse intervient dans l'expectative d'un nouveau gouvernement. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé un vaste remaniement ministériel. Il s'est notamment engagé à relancer la machine économique et lutter contre la corruption. Le Parlement angolais a approuvé deux textes pour rapatrier les capitaux angolais domiciliés à l'étranger et le régime de régulation des actifs. Le président João Lourenço veut imprimer une nouvelle dynamique aux investissements dans le pays pour éviter les tracasseries fiscales. Le rapatriement devra se faire en 6 mois après la promulgation des textes qui concernent les personnes physiques et morales. Les montants supérieurs à 100 000 $ en liquide ou en certificat de dépôt, titres et autres instruments financiers sont visés, sans oublier les polices d'assurance vie adossées à des fonds d'investissement.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Raja de Casablanca sanctionné après des actes de vandalisme.
Le club marocain a écopé hier de 2 matchs à huis clos et une amende de 50 000 dirhams après des violences survenues dimanche dans un match face au Kaokab de Marrakech. La commission de discipline de la Fédération royale marocaine de football a également condamné le Raja de Casablanca à prendre en charge les dégâts occasionnés dans le stade de Marrakech. Les troubles ont fait 14 blessés parmi les forces de l'ordre et plus de 2000 sièges ont été arrachés. Ces nouveaux incidents de dimanche surviennent alors que le Maroc mène une campagne pour abriter la Coupe du Monde 2026.
Gernot Rohr peaufine la pré-liste nigériane pour le Mondial 2018.
La liste du Nigeria sera prête avant les matchs amicaux contre la Pologne le 23 mars et la Serbie le 27 mars. D'après la Fédération nigériane de football, la FIFA exige de chaque pays qualifié une pré-liste de 40 joueurs au moins 4 mois avant la compétition et Gernot Rohr dit s'en tenir aux joueurs qu'il a utilisés lors des qualifications pour la Russie. Il a exclu la convocation de Vincent Enyama, qui ne joue plus avec son club Lille.
Buffon sera probablement rappelé contre l'Angleterre et l'Argentine.
C'est ce qu'a assuré hier le sélectionneur italien par intérim Luigi Di Biagio. Le légendaire gardien de but Gianluigi Buffon avait annoncé en larmes sa retraite internationale en novembre dernier. On se rappelle encore lors de l'échec de l'Italie dans les éliminatoires du Mondial 2018. Ce n'est pas juste que son dernier match soit celui contre la Suède, donc j'ai proposé qu'il revienne pour 1, 2, voire 3 matchs, a déclaré le technicien au sujet du portier de 40 ans. Le gardien de la Juventus Turin compte 175 sélections avec la Squadra Azzurra. Il espérait devenir cet été le premier joueur à disputer 6 éditions de la Coupe du Monde, mais l'Italie, éliminée en barrage par la Suède, ne s'est pas qualifiée pour la première fois depuis 1958. L'Italie doit affronter l'Argentine le 23 mars à Manchester et l'Angleterre à Londres le 27. NBA. Pour terminer, avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
LA Lakers et Atlanta 123-104, Boston et Memphis 109-98, Brooklyn et Chicago 104-87, Golden State et New York 125-111, Toronto et Détroit 123-94, La Nouvelle-Orléans et Phoenix 125-116.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est aujourd'hui que s'ouvre au Burkina Faso le procès des auteurs du putsch manqué de 2015, un procès marathon qui va permettre d'auditionner plus de 80 accusés, dont le général Gilbert Diendéré. La guerre des mots, elle, est déjà engagée entre différents protagonistes de ce procès. Reportage à Ouagadougou, Issa Napan.
Le match entre accusateurs et défenseurs du général Gilbert Diendéré et 83 autres accusés se joue depuis plusieurs jours dans les médias. Les organisations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès pour que les victimes se fassent entendre. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce procès doit être rigoureux et transparent afin de marquer la fin de l'impunité. Chrisse Gonzoug-Moré.
Le MBDHP rappelle que cette résistance populaire a fait 14 personnes tuées, essentiellement par les balles d'éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, ainsi que de nombreux blessés, dont certains marqués à vie.
Devant la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou, ce procès sera ouvert au public au palais des sports de la capitale. La justice et le droit sont les maîtres mots pour un procès qui ne doit oublier aucun des témoins pour un jugement équitable, estime Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile.
Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. C'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pour ce procès-là, nous ne faisons aucune chasse à quelque sorcier que ce soit. Les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles demandent la justice. Et ce que nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendue. Car à l'issue de ce procès, on n'a pas l'impression qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Si des gens disent que certaines personnes sont impliquées, il faut les entendre. Les gens peuvent se réconcilier, c'est leur droit. Mais ceux qui ont commis des crimes sont condamnés.
Les partisans des accusés, à coup de conférence de presse, crient à un procès politique. C'est le cas notamment du président de la nouvelle alliance du Faso Nafa, la formation politique du général Bassolé, également inculpé dans le dossier. Il y a manifestement ingérence du pouvoir, martèle le professeur Mamoudou Diko.
Au niveau de la Nafa, nous avons un souci sur notre leader, son individu Bassolé, parce que tout simplement, il y a eu d'abord une question de justice n'a pas été bien expliqué à notre avis, parce que le juge lui avait donné une liberté provisoire et tout le monde a suivi ce qui s'en est suivi. Les gens ont refusé d'appliquer cette décision et a été embrigadé par le pouvoir inquiété. Bon, c'est un arrêté que l'autre ministre a pris à posteriori, l'empêchant même de juger sa décision judiciaire. Nous sommes sceptiques par rapport à l'indépendance totale au niveau de la justice militaire. Nous devons croire que parmi eux, il y a des juges quand même qui vont privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
83 témoins passés donc à la barre pour éclairer l'opinion sur ce jour de septembre 2015 où le général Gilbert Diendéré prit brièvement les commandes du pays après un putsch soutenu par le régiment de sécurité présidentielle et selon certaines sources par le général Djibril Bassolé et de nombreuses autres personnalités. Les accusés sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et de coups et blessures volontaires. Issa Napan, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé que son gouvernement allait procéder à la vente de tous les biens volés non réclamés et que l'argent serait déposé dans le compte du Trésor national. De nombreuses propriétés volées par des fonctionnaires corrompus ont déjà été récupérées au Nigeria et dans plusieurs autres pays, y compris au Royaume-Uni, depuis l'arrivée de M. Buhari au pouvoir en 2015. Comment réagissent les Nigérians? Reportage de Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique sur place.
Attaquer la corruption au sein de l'administration était l'une des promesses majeures de campagne du président Muhammadu Buhari. L'agence anticorruption a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Certains anciens ministres, gouverneurs, directeurs d'agences fédérales encore en fonction font partie de la liste noire de l'IFCC, la commission de lutte contre les délits financiers. Problème, nombreux parmi eux sont ceux qui demandent être les propriétaires des biens qui leur ont été attribués par les différents différentes agences de lutte contre la corruption suite aux enquêtes ouvertes il y a plusieurs mois. La décision du président nigérian de vendre ses biens et placer cet argent dans un compte du Trésor national est saluée mais suscite des interrogations dans le pays. Hidayat Hassan est la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un organe qui combat la corruption.
Les rapports de plusieurs cas n'ont pas été publiés jusqu'ici, parce que la volonté politique seulement ne suffit pas à combattre la corruption. Il faut aussi être transparent dans le processus. Il faut par exemple montrer le montant retracé et montrer le rapport de certains cas enquêtés.
D'autres veulent tout simplement que ces fonds soient directement investis dans le développement des infrastructures pour la création des emplois pour des milliers de jeunes Nigériens diplômés au chômage. Hamzat Laval est activiste et directeur exécutif du CODE, Connected Development.
Pour moi, cela n'a pas de sens. Pourquoi, après la vente, il va mettre ses fonds dans le compte de notre trésor national? Aujourd'hui, nous traversons une crise silencieuse. Nos infrastructures sont dans un état déplorable. Nous devons investir plus dans les infrastructures parce que vous ne pouvez pas recevoir un investissement international si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, je vais croire qu'il ne va pas placer ses fonds dans le compte du Trésor national.
Tout comme ces activistes qui combattent la corruption, les populations ne cachent pas également leurs inquiétudes.
Depuis tout ce temps, ils donnent des promesses qui vont annoncer et publier les noms des personnes impliquées et jusqu'ici, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme tel et vous voulez le faire dans le secret, cela peut aboutir à une chasse à l'homme et une élection. Dans ce cas, la corruption qu'ils combattaient n'est pas une lutte totale.
Le Nigeria a retracé et récupéré avec succès 2,9 milliards de dollars entre mai 2015 et octobre 2017, selon la Commission des crimes économiques et financiers, IFCC. L'un des cas les plus célèbres est celui du colonel Sambo Dazuki, l'ancien conseiller national en sécurité de l'ancien président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars de l'argent voté pour l'achat d'armes destinées à la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, Afrique.
À Djibouti, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, annonce avoir remporté 58 des 65 sièges de députés, soit 3 de plus que lors du scrutin de 2013. Et ce, à l'issue des législatives de vendredi. Une large victoire qui n'est pas une surprise pour le parti du président Ismaël Omar Guelleh, lui-même en poste depuis 1999, d'autant que le scrutin a été une nouvelle fois boycotté par une large partie de l'opposition. Pour une réaction, Jacques Aristide s'est entretenu avec l'opposant djiboutien Saïd Houssen Robley, président de l'Union pour la démocratie et la justice en exil à Bruxelles.
C'est un show électoral que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est plus une fraude, mais c'est un show électoral. Il n'est pas pour moi étonnant de voir de tels résultats.
Mais l'opposition est-elle à blâmer également, car contrairement au scrutin de 2013, elle est partie en ordre dispersé. L'USN, l'Union pour le Salut National, n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui, n'est-ce pas?
Non, l'opposition n'est pas à blâmer parce qu'elle, elle a appelé au boycott en 2016. Et en 2018, le problème, ce n'est pas l'opposition, mais ce sont les faux opposants.
Que voulez-vous dire exactement par faux opposants?
Les faux opposants, c'est ceux qui ont participé à l'élection présidentielle et ceux maintenant des législatives. Ce n'est pas l'opposition, l'USN, ni les vrais opposants.
Vous, au niveau de l'UDJ, que réclamez-vous? Comment cette situation peut-elle changer, éventuellement?
Cette situation peut changer. Elle est arrivée pas seulement à l'UDJ, elle est arrivée à tous les partis de l'opposition. Où il existe pour chaque parti d'opposition un clone. Donc l'UDJ que vous voyez aujourd'hui, c'est un clone de l'UDJ, car la fille qui prétend présider l'UDJ ne représente pas l'UDJ, mais elle veut utiliser le nom de son père, qui est en réalité le vrai fondateur de l'UDJ. Donc elle n'est pas la vraie présidente de l'UDJ, et c'est un clone de l'UDJ. En réalité, il n'y aura pas d'élection au pays, ni d'alternance politique, parce que nous avons des expériences électorales avec le terrain, avec la présidente d'Ismaël Guelleh, il n'y aura pas d'élection, ni d'alternance politique. Le changement viendra seulement par deux choses, soit une révolution populaire, soit par la lutte armée, parce qu'il n'y aura pas de changement avec Ismaël Guelleh, qui a montré toutes ses limites. Donc, à part que des fonctions-là, il n'y aura pas Effectivement, je suis maintenant en exil. J'étais également député de l'opposition pour le parti UDJ, mais j'ai été fusillé au pays le 21 décembre 2015. Malgré que j'étais député, même j'ai été battu sur la place publique le 10 décembre 2015, là je viens de voir la liste de l'UNP au pouvoir contre la liste de l'opposition UDJ-PDD. Mais en vérité, l'UDJ-PDD, c'est pas un parti, mais c'est deux personnes. L'UDJ clone. Donc, pour ce qui concerne l'UDJ et qui me concerne, cette fille-là ne représente ni l'UDJ, ni l'opposition. La preuve, c'est qu'il y a un show électoral. Ils prennent les deux casquettes, une casquette du parti au pouvoir et l'autre casquette de l'opposition. Il n'y aura jamais des élections législatives.
C'était l'opposant djiboutien Saïd Hussein Roblet, président du parti UDG. Il était en ligne de la capitale belge.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Mali est redevenu le premier producteur de coton en Afrique devant le Burkina Faso. La récolte a dépassé les 700 000 tonnes pour la saison 2017-2018. Le coton est la principale culture de rente plantée en rotation tous les 3 ans. Le pays compte 3 millions de producteurs de coton et exploite 700 000 hectares. Eric Manirakiza a joint à Bamako le PDG de la compagnie malienne pour le développement des textiles, Baba Berté.
Il faut saluer les différents acteurs, à commencer par les producteurs. Ils ont pris l'engagement de se surpasser. Effectivement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il faut également saluer le soutien du gouvernement à ce secteur. D'abord, il a apporté un appui pour l'acquisition des intrants en subventionnant les intrants. Deuxième élément, c'est que depuis 2 campagnes, le président de la République a donné l'ordre au gouvernement d'aider les producteurs à s'équiper. Effectivement, il y a un peu plus de 1000 tracteurs qui ont été distribués aux producteurs à un prix subventionné.
Et comment vous encouragez l'agriculteur?
Le prix est assez attractif. Nous achetons le coton au producteur au prix de 250 francs le kilo, avec la possibilité de ristourne quand le marché international donne un prix supérieur à celui auquel nous l'avons acheté. La troisième catégorie d'acteurs, j'allais dire, c'est l'encadrement de la CMDT. C'est un personnel très expérimenté, très compétent. Je le salue, je peux en témoigner, qui a donné le meilleur de lui-même pour suivre pas à pas le producteur, à lui donner le fallait. C'est cette synergie d'action des différents acteurs qui ont donné ce résultat.
Quel type de coton vous plantez au Mali?
Nous avons plusieurs variétés. C'est des variétés classiques. Hein. C'est le coton conventionnel. Et à l'intérieur duquel vous avez plusieurs variétés. Bon, ça c'est un peu scientifique. Je préfère ne pas entrer dans l'énumération des différentes catégories de coton conventionnel que nous produisons. Mais il est important de dire que c'est des variétés à haut rendement. Et malheureusement, nous avons quelques contraintes qui ont une limite encore à ce niveau de production. Et ça, c'est lié à la qualité, à la structure de nos sols. Et une fois ce problème, nous sommes en train de le traiter. Une fois que nous l'aurons traité, je pense qu'il est possible que nous serons un résultat meilleur à celui que nous avons aujourd'hui.
Et pourquoi vous ne faites pas recours au coton OGM?
Le choix à l'époque a été de ne pas aller vers le coton étranger. Et je pense que ça a été une décision qui a été sage parce que le principe de précaution fait que nous ne savons pas ce qui en découle. Et donc le débat a eu lieu. Les différents acteurs de la filière ont jugé nécessaire de se contenter du coton conventionnel.
C'était Baba Berté, PDG de la compagnie malienne pour le développement des textiles.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi 27 février, juste après les nouvelles. Pour une discussion avec Judith Omanda, militante des droits humains à New York, cofondatrice et secrétaire générale de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mademoiselle Omanda partagera avec nous son engagement politique en tant que jeune femme. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Thomas Blondet. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.